Eh bien, mes chers amis, chers frères et sœurs, il y a 60 ans, je me trouvais dans une réunion de prière, toute semblable à celle-ci. Et après que nous ayons exposé nos besoins au Seigneur, c'était une année après ma rencontre personnelle avec Jésus que cela se passait. Je me souviens toujours d'un frère qui s'était levé et qui avait lu simplement pour terminer cette réunion de prière un texte dans l'évangile de Matthieu. Vous savez, j'avais 15 ans à ce moment-là, mais il y a de ces paroles qui vous restent et qui vous marquent pour la vie, et qui sont réalité au travers de toutes les épreuves. Ce frère, qui est auprès du Seigneur, bien sûr, depuis longtemps, avait lu au chapitre 10 de Matthieu, le verset 24e, 24 et 25. Et quand je priais ce matin pour demander au Seigneur ce qu'il voulait que j'apporte, j'ai eu ce souvenir, après, à la fin d'une réunion de prière, il y a 60 ans, il y avait eu une parole, et cette parole qui m'avait touché me touche encore. Et je vous l'apporte, en vous posant aussi affectueusement la question qui nous avait été posée par ce frère qui est auprès du Seigneur. Le disciple, verset 24, n'est pas plus que le maître. C'est logique, hein, on l'admet ça. Mais dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Le disciple, hein, qu'est-ce que c'est un disciple? C'est un élève, c'est quelqu'un qui est enseigné par un maître. Là, nous sommes, nous nous disons, puisque nous avons répondu à son appel, nous nous disons, ses disciples. Donc des hommes et des femmes qui veulent suivre Jésus dans ce chemin qui conduit à la croix. Parce que Jésus n'a trompé personne. Il n'a pas dit aux gens, suivez-moi, ça sera très facile. Il a dit, tu veux me suivre, hein? Renonce à toi, prends ta croix et suis-moi. Il n'a pas essayé de convaincre que tout serait paisible et sans difficulté pour ceux qui le suivraient. Quand certaines personnes disaient « Seigneur, je veux te suivre, mais laisse-moi d'abord, même quelque chose de tout à fait naturel, ensevelir mon père, n'est-ce pas ? » Mais on ne parle pas comme ça au Seigneur. « Laisse-moi d'abord. » Parce que je pense bien qu'il avait dit « Seigneur, oui, je voudrais te suivre. » Le Seigneur lui aurait dit « Va d'abord enterrer ton père. » N'est-ce pas? Parce que le Seigneur n'est pas contre les devoirs que nous devons rendre à nos proches. Hein. Mais on ne dit pas au Seigneur, je veux te suivre, mais d'abord, laisse-moi faire ceci ou faire cela. Ou bien, comme certains l'ont pensé, que cet homme avait dit, laisse-moi d'abord ensevelir mon père, c'est-à-dire, attends que mon père meure, et puis après, je te suivrai. Mais je ne pense pas que c'était cela. Alors, mes amis, le disciple, c'est nous. Et puis, le maître, c'est Jésus. Eh bien, nous devons bien comprendre que nous ne sommes pas au-dessus du maître. Le disciple n'est pas plus que le maître. Et le serviteur, plus que son Seigneur. Car Jésus n'est pas seulement notre Sauveur, il est notre Seigneur. En 1962, c'est-à-dire celui qui a tous les droits sur nos cœurs. Et puis alors, c'est ce verset qui avait été lu, « Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. » Il suffit. Et je me souviens toujours qu'il y a 60 ans, Ce frère, en nous regardant bien, disait, est-ce que cela nous suffit? Méditez un peu sur cette pensée. Est-ce que c'est suffisant pour nous d'être traités dans ce monde comme notre maître a été traité? Il suffit aux disciples qu'ils soient comme son maître. Et tout à coup, j'ai vu il y a 60 ans toutes les épreuves qu'a eu mon maître, qu'a eu le Seigneur. L'homme de douleur, l'habitué à la souffrance, incompris par ses proches, qui, comme vous le savez, quand vous lisez l'évangile de Marc, le prenaient quelquefois pour un fou, un insensé. Il n'avait pas même le temps de prendre la nourriture, tellement il était accaparé, pris par les besoins des foules. Alors, on vient lui dire, mais ta mère et tes frères sont là qui te cherchent. Ils venaient pour l'enlever parce qu'on pensait qu'il n'était plus normal. On l'a traité d'insensé même dans sa famille. Ses proches ne croyaient pas en lui. Et vous vous souvenez de sa parole, qui est ma mère et qui sont mes frères? Et il regarde tous ceux qui sont autour de lui et il dit, celui qui fait la volonté de mon père, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Mais le Seigneur a connu toutes les humiliations, aussi bien dans sa famille, auprès de ses proches, et puis au milieu de ses disciples. Croyez-vous qu'il était compris? Il avait choisi 12 disciples qui recevaient quotidiennement son enseignement et qui prétendaient, après qu'il leur eut expliqué certaines paraboles, ils prétendaient qu'ils avaient compris. Avez-vous compris ce que je vous ai dit? Ils disaient oui. Et ils n'avaient rien compris. On le voit. Hein? Nous sommes pleins de prétentions. Le Seigneur a été incompris de ses disciples. Comment se peut-il que, voyant des parents venir vers Jésus avec leurs petits-enfants dans leurs bras pour qu'il bénisse ses enfants, qu'est-ce que les disciples faisaient? Vous en souvenez? Ils reprenaient les parents en disant, laissez le maître, n'est-ce pas? Il ne faut pas ennuyer le maître. Ils empêchaient les parents d'amener leurs enfants. Il ne fallait pas déranger le Seigneur. Et j'ai souvent été frappé de ce que la parole nous dit, parce que c'est très rare. Jésus eut de l'irritation contre qui? Contre ses propres disciples. Il eut de l'irritation, vous ne trouvez pas souvent Jésus irrité? Mais contre qui a-t-il été irrité? Contre ses propres disciples, qui voulaient empêcher des parents qui voulaient apporter leurs enfants pour qu'ils les bénissent. Et c'est là qu'il ouvre ses bras et qu'il dit, mais laissez venir à moi les petits-enfants, c'est à de tels qu'est le royaume des cieux. Comme les disciples étaient loin de la pensée du Seigneur. Et quand cette pauvre femme, qui avait une fille possédée par un démon, a cherché Jésus, mais c'était une cananéenne qui n'avait aucun droit aux bénédictions d'Israël, et elle a trouvé Jésus qui était caché dans une maison. Lisez le chapitre 8 de Marc, et vous trouverez cela. Elle a fait jusqu'à ce qu'elle le trouve, et elle avait crié après lui. Et alors les disciples avaient dit au Seigneur, envoie cette femme, elle crie après nous. C'est une gêneuse. Et il semble que le Seigneur est un peu dur vis-à-vis de cette femme. Il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Jésus emploie les mots que les Juifs employaient pour les païens. Les païens, c'était quoi? Les non-sauvés, c'était pour eux des chiens. Alors, Jésus prend leur expression, pas parce qu'il l'approuve, mais parce qu'il veut leur enseigner quelque chose. Et cette femme, je la trouve vraiment admirable. Je peux bien la trouver admirable, puisque le Seigneur l'a admirée. Et qu'il a dit qu'il n'y avait pas trouvé en Israël une si grande foi. Eh bien, cette femme dit, oui, Seigneur. Elle se prend pour un chien. Oui, elle a accepté le jugement. Oui, Seigneur. Mais même les petits chiens, vous voyez, elle se met encore plus bas que le chien. Mais même les petits chiens, ils peuvent manger les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors le Seigneur lui dit, ta foi t'a sauvé. Oui, ta fille est guérie. Qu'il te soit fait selon ta foi. Mais vous voyez comme on peut être disciple du Seigneur et avoir encore un cœur dur. Et voilà, nous sommes ici dans ce monde, nous traversons cette terre, nous travaillons pour le Seigneur, nous avons été appelés à travailler pour le Seigneur. Mais nous avons des moments difficiles, des moments pénibles, mais qui est-ce qui a eu des moments pénibles? Toute sa vie, n'est-ce pas le Seigneur? Je me suis souvenu qu'un jour, puisque j'ai commencé très jeune d'être au service du Seigneur, et mon père m'avait dit, si tu veux servir le Seigneur, accepte de devenir le paillasson de tes frères, c'est-à-dire le tapis sur lequel on va s'essuyer les pieds. Et je me suis souvent souvenu de cette parole de mon père, qui était un homme sage. Ah, on ne peut pas se glorifier dans le service du Seigneur. Il faut accepter qu'on s'essuie les pieds sur nous et qu'on dise toutes sortes de mal de nous, qu'on soit incompris. Mais Seigneur, il a été incompris. Constamment. Est-ce que ça me suffit? Il suffit aux disciples qu'ils soient comme son maître. Et vous savez, je me souviens toujours d'un jour où j'étais en prière, j'étais dans une station de malades, il y avait 3000 malades où j'ai exercé un ministère pendant 7 années d'aumônier. Parmi ces malades, ces tuberculeux pendant la guerre. Et il y a des moments où vous passez avec le Seigneur sur vos genoux, puis vous demandez au Seigneur de vous donner davantage pour que vous puissiez apporter davantage à toutes ces âmes dans le besoin. C'est pas facile de parler à des mourants, hein, surtout quand ils sont jeunes, et puis qu'ils sont peut-être fiancés, puis que vraiment, ils vont partir. On n'avait pas encore la pénicilline pour soigner la tuberculose. Alors, je me trouvais souvent en face de cas difficiles, comme samedi, quand une personne est atteinte du sida, ben, qu'est-ce que vous voulez, hein? Pour ne pas nommer cette maladie, il y a plus rien à faire, on le sait. Alors, c'est pas facile de parler. Et puis, il n'est pas question d'accuser, il n'est pas question de juger, il est question d'aider, il est question de libérer, il est question de que le Seigneur soit vu en nous et qu'il reçoive une parole du Seigneur. Alors, un jour, dans cette ville où j'habitais, à Lézun, je pensais à cette parole d'il y a 60 ans, il suffit aux disciples qu'ils soient comme son maître. Et puis, j'avais dit au Seigneur, bien, tu peux tout reprendre. J'avais tout passé en revue. Je suis prêt à, tu m'enlèves tout, pourvu que je puisse te servir, être dans ta main un instrument qui apporte la bénédiction aux âmes. Tu peux me trouver ce que tu voudras, Seigneur, mais je te veux toi. Vous savez, c'est ces moments violents, hein, que l'on a avec le Seigneur. Et il nous prend au mort. Et je pensais que j'avais tout remis. J'avais mis ma femme, mes enfants, 5 enfants, sur l'autel du sacrifice. Puis, quand même, il y avait 3 choses que je pensais devoir garder. Et je voudrais seulement vous les souligner. 3 choses. Parce que, vous voyez, on croit qu'on a tout donné, mais il y avait 3 choses. C'était vis-à-vis de mon ministère. Pour que je puisse continuer mon ministère, il faut que je conserve l'estime de mes frères, et puis aussi une bonne réputation, une réputation sans tache. Je pensais l'avoir, hein, d'abord. Une réputation sans tache, l'estime de mes frères, puis la confiance de mes amis. On a des amis chez nos frères, hein. Il est tel ami, plus attaché encore qu'un frère. La fraternité, c'est déjà merveilleux, n'est-ce pas? Mais dans la fraternité, il y a encore un degré de plus, c'est la véritable amitié. Vous voyez cela parmi les disciples de Jésus. Jean était plus intime avec le Seigneur que les autres. Et il était conscient que Jésus l'aimait, puisqu'il disait toujours, le disciple que Jésus aimait. C'est pas Jésus qui disait qu'il aimait ce disciple, mais c'est Jean qui était conscient que Jésus l'aimait. Et nous devons devenir conscients que le Seigneur nous aime. Est-ce que vous êtes conscients ce soir que le Seigneur vous aime? Et qu'il vous aime de l'amour de son Père. Alors, moi j'avais gardé, tout en pensant que je pouvais être le paillasson de mes frères, j'avais quand même gardé, Seigneur, il me faut garder ma réputation intacte. Or, le Seigneur m'a parlé, là. Tu veux garder ta réputation? Alors tu veux être traité mieux que moi. Hein? Il suffit aux disciples qu'il soit comme son maître. Alors qu'est-ce que j'ai vu? La réputation de Jésus, dans les jours de la Passion, avec qui est-ce qu'il était quand il allait au calvaire? Sa réputation, mis au rang des iniques. Hein, il faut que je le voie, mon Seigneur. Sa réputation à la place d'un brigand. Comme s'il était lui le brigand. Comme s'il était lui Barabbas. C'est lui qui va mourir. Et moi, je veux garder ma réputation. Alors, tu t'estimes plus que le Seigneur. Parce que je voulais aussi garder l'estime. Et voilà que la parole nous parle. Qu'est-ce que vous lisez dans Ésaïe 53? On le lit souvent dans un culte, hein. Mais est-ce qu'on oublie ces paroles? Ils n'ont eu pour lui aucune estime. Homme de douleur, habitué à la souffrance, ils n'ont eu pour lui aucune estime. Alors tu t'estimes plus que moi. Tu veux être plus grand que ton maître. Vous voyez comme le Seigneur sait nous abaisser, nous humilier. Puis la troisième chose, la confiance de mes amis. Je suis une âme qui aime, alors j'étais heureux d'avoir la confiance de mes amis. Alors le Seigneur m'a parlé aussi. Tu t'estimes plus que moi. Écoute la conversation des disciples d'Emmaüs sur le chemin, quand je les ai rejoints, ressuscités. Ces hommes qui avaient un long visage et qui s'entretenaient en chemin, puis Jésus les approche, arrive à leur hauteur, et puis il les questionne d'abord. De quoi parlez-vous en chemin? Et pourquoi est-ce que vous avez un air si triste? Vous voyez que le Seigneur voit aussi notre visage, notre air. Quel est notre air? On a l'air tellement préoccupé, tellement triste. Puis ils lui disent, mais Seigneur, est-ce que tu es seul à vivre à Jérusalem pour ne pas savoir les choses qui se sont passées? Et vous savez, Jésus ne sait pas leur enseigner, hein. Il dit, lesquels? Comme s'il ne le savait pas. Et c'était lui qui les avait vécues, hein. Nous, on est toujours prêts à donner des nouvelles. Hein. Non. Il dit, lesquels? Mais ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, nous espérions que c'était lui qui devait délivrer Israël. Et voilà que leur confiance est ébranlée. Voilà. Nous espérions. Il y avait des amis qui espéraient que je pourrais faire ceci, que je pourrais faire cela pour eux. Puis voilà que, tout à coup, ils sont déçus. Parce que le Seigneur nous appelle à le suivre plus près de lui. Et ça sera dans l'incompréhension. Et puis, à qui est-ce que je dois obéir? À mes amis ou à ce que le Seigneur m'a absolument montré pour que je vive selon lui? Eh bien, quand ces choses, vous savez, c'est comme une grâce prévenante, elles sont arrivées. Je me suis souvent souvenu de ce passage. Il suffit aux disciples qu'ils soient comme son maître. Alors ça nous réconcilie avec tout ce qui peut nous arriver. Comprenez-vous? Puis nous n'avons pas d'amertume. Même si on a été incompris, rejeté, si on a entaché notre réputation, si on a été calomnié par des êtres qui pouvaient nous être chers, eh bien, il y a dans notre cœur l'esprit de pardon. Parce que voyez-vous, quand j'y pense, quand je vois mon Seigneur dans ses souffrances sur la croix, eh bien, je vois que lui, il a réalisé tout ce qu'il a prêché. La croix a été la manifestation que ce qu'il disait, il le vivait. C'est vrai ou c'est faux? On est en train de le clouer. Qu'est-ce qu'il a prêché? Il a prêché le pardon. À Pierre qui est venu vers lui en lui disant, mais Seigneur, combien de fois est-ce que je pardonnerai à mon frère? Puis il croit qu'il a une réponse fantastique. Sera jusqu'à 7 fois, parce que c'est la plénitude. Jésus lui dit, non mon cher Pierre, pas 7 fois, 70 fois 7 fois. Voilà ce que Jésus avait dit. Mais maintenant, quand on est en train de le clouer sur la croix, qu'est-ce que vous entendez sortir de sa bouche? Est-ce qu'il demande la malédiction de son père sur ces gens? Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voyez-vous, quand des frères même, ou des hommes, veulent nous faire du mal, ayons dans notre cœur déjà le pardon. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font quand on veut vous faire du mal. Ceux qui veulent vous faire du mal, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors demandons au Seigneur leur pardon. Nous allons entasser ainsi sur leur tête des charbons ardents et c'est comme ça qu'ils vont se convertir. Il faut qu'on accepte la souffrance. Comment est-ce que mon Seigneur m'a eu? C'est par la souffrance. Et c'est dans ces souffrances qu'il absorbe toutes nos souffrances. Puis qu'est-ce qu'il a prêché? Eh bien, il a prêché « Aimez vos ennemis ». Aimez vos ennemis. Voilà, à ses côtés, il y a un brigand qui... Il y a 2 brigands à chaque côté, puis il y en a un qui meurt, mais... Tout à coup, sa conscience est réveillée, puis il s'est tourné vers le Seigneur. Il a reconnu ses fautes. Il dit « Nous, nous sommes ici justement, mais lui, il n'a rien fait qu'il ne se dut faire ». Et quand Jésus entend cet homme lui dire, Seigneur, souviens-toi de moi, quand tu seras dans ton royaume, quand tu viendras dans ton royaume, ne croyez pas que c'est merveilleux. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'un crucifié peut dire à un autre crucifié qui va mourir? Il oublie toutes ses douleurs à lui. Puis lui dit, en vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Hein? Jésus a réalisé ce qu'il a prêché. Il a apporté le salut à la 11e heure. Alors, n'ayons pas de doute sur ce que Dieu peut faire au dernier moment. Un regard sur la croix est suffisant. Voyez-vous, les Israélites dans le désert, quand ils étaient mordus par le serpent, c'était pas en regardant le serpent qu'ils étaient sauvés, en regardant les serpents, en essayant de se débarrasser eux-mêmes de leur serpent. C'était en regardant le serpent des reins. Et c'est ce regard qui allait les sauver. C'est pas le regard sur nos péchés maintenant, c'est le regard sur la croix, sur ce que Jésus a fait à la croix. Alors nous avons la paix. Eh bien, méditez, revoyez encore Jésus sur la croix et souvenez-vous, repassez dans vos cœurs combien le Seigneur a souffert.
Et alors, il suffit que je sois comme lui.
Alors, ce que j'avais compris, c'est qu'il y avait encore de la marge. Et je dis encore cela aujourd'hui, 60 ans plus tard. Il y a encore de la marge. On peut encore accepter d'autres épreuves et d'autres souffrances s'il nous suffit d'être comme notre Père. Mais il n'est pas venu pour juger, pour condamner. Il est venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Et vous connaissez cette merveilleuse parole. Après qu'il eut senti cette absence terrible, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et nous savons, nous pouvons donner la réponse, c'était à cause de nos péchés, parce qu'il s'était mis à notre place, parce qu'il venait pour régler la question de nos péchés, pour qu'il soit fini avec nos péchés, pour que quand Satan veut nous accuser, nous sachions que Dieu ne nous accuse pas. Dieu est juste en justifiant ceux qui ont la foi en Jésus. Dieu est juste en justifiant ceux qui ont la foi en Jésus. C'est quelque chose qui nous bouleverse, c'est quelque chose de merveilleux. Il ne peut pas nous condamner, puisque Jésus a payé. C'est fait, tout est accompli. Ayant tout accompli, peut dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il suffit aux disciples qu'il soit comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. Vous voyez comme nous sommes intimement liés avec Jésus, unis à lui, un avec lui. Alors, tant que je suis un avec le Seigneur, eh bien, je suis réconcilié avec tout ce qui peut nous arriver, avec toutes les incompréhensions de notre milieu, de nos frères, de nos amis. Peu importe, nous voulons les aimer, nous voulons continuer à prier pour eux, comme Jésus l'a fait, être comme Christ. On chante tous ces beaux cantiques de ressembler Jésus, mais pour lui ressembler, il nous faut vraiment l'avoir dans notre cœur, repasser toute sa vie dans notre cœur, méditer beaucoup sur ses souffrances. Et voyez-vous, si nous n'avions pas d'épreuves, nous ne pourrions pas comprendre ceux qui sont dans l'épreuve. Il nous console à l'égard de toute notre affliction afin que nous soyons capables. Pas dans une école qu'on apprend ça. C'est en étant au pied de Jésus. Il nous console à l'égard de toute notre affliction afin que nous soyons capables de consoler ceux qui sont dans quelque affliction que ce soit par la consolation dont nous avons nous-mêmes été consolés de Dieu. De Corinthiens, chapitre 1er. Mais pour être consolé de Dieu, il faut avoir été affligé. Alors, on sait ce qu'a été l'affliction, mais on sait aussi comment, dans nos afflictions, le Seigneur ne nous a pas laissés, mais nous a consolés pour que nous puissions consoler les autres. Et je veux simplement vous redire, pour que vous puissiez méditer sur cela dans cette fin de semaine, ces degrés d'abaissement du Seigneur, on en parle souvent le dimanche matin quand on lit Philippiens 2 dans un culte. Eh bien, il était de condition divine. Mon Seigneur, qu'est-ce qu'il était? Il était Dieu. Et on a compté au moins 7 degrés dans l'abaissement du Seigneur. Quand j'y pense, je ne puis qu'adorer. Étant de condition divine, il a consenti à prendre une forme humaine et sa conception même, c'est un sujet d'adoration. Comment concevoir que Jésus, le Fils éternel, est devenu, pour qu'un corps soit formé pour lui, une substance informe. Tes yeux ont vu ma substance informe, psaume 139. De condition divine, il devient dans
le sein de Marie une substance informe. Car un corps a été formé. Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un. Des rois des rois qui habitaient le temple où tout dit gloire, il naît dans une étable, parce qu'il n'y a pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et c'est là que mon Seigneur va naître. Il suffit aux disciples d'être comme son maître. Je voudrais toujours quelque chose de meilleur, un meilleur appartement. Lui, il a eu pour commencer une étable. Après le temple où tout dit gloire, est-ce qu'il me suffit de connaître au moins cet abri? Et puis ensuite, quand on y pense, il a accepté d'être éduqué par un père et par une mère. Marie, hein. Petit enfant, il leur était soumis. Et il croissait devant Dieu et devant les hommes. Il a été éduqué par ses parents. Et comme enfant, il leur était soumis. Alors qu'à 12 ans, même sa mère ne comprenait pas son fils quand il est resté à Jérusalem au milieu des docteurs et puis que la mère lui dit, après l'avoir cherché pendant tout un temps, « Pourquoi nous as-tu fait cela ? Mais ne savez-vous pas qu'il fallait que je sois aux affaires de mon père ?» Il suffit aux disciples d'être comme son maître. Vous voyez, conception, naissance, éducation par des parents, puis ensuite son contact avec les hommes. Quand il a eu un métier, il était le charpentier, il a eu ce contact quotidien en allant livrer ce qu'il avait pu faire, les commandes qu'on lui avait données, puisqu'il avait appris ce métier avec un père humain. Puis ensuite, alors, toute sa passion allant de lieu en lieu, faisant du bien, ce contact avec les hommes. Homme de douleur, sachant que c'est que la langueur, il suffit aux disciples d'être comme mon maître pour arriver où? À la croix, alors méditer sur sa mort. Quand il est dit dans un psaume, toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. Un abîme appelle un autre abîme. L'abîme de péché dans lequel je me trouvais a suscité un abîme de souffrance dans lequel le Seigneur est entré. Et puis ce deuxième abîme a été englouti par l'abîme de son amour. Abîme de péché qui a appelé l'abîme de ses souffrances. Mais tout cela, les trois abîmes, oui, sont engloutis dans cet abîme de son amour. Voilà comment il nous a aimés. Qu'il nous suffise d'être comme notre maître. Et puis ensuite, le dernier degré, on l'a descendu de la croix. Et on l'a mis où? Dans un sexe. Né dans une crèche, en ce fils. Dans un sexe, le sépulcre d'un homme. Voilà son abaissement. Alors qu'il nous suffise d'être aussi, d'avoir une vie cachée. C'est de ce sépulcre que va sortir la vie victorieuse. La vie glorieuse du Seigneur. Peu importe que nous soyons inconnus, méprisés, que nous ayons passé aussi par le sépulcre, ce qui compte, c'est lui, qui est notre Père. Nous voulons continuer les uns et les autres notre méditation en nous posant cette question. Oui, le disciple n'est pas plus que le maître, et l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Il suffit au disciple qu'il soit comme son maître. Nous voulons te demander que cela nous suffit. Car si sur cette terre nous pouvons accepter d'être abaissés, nous savons que toi tu ne résistes qu'aux orgueilleux, mais que tu fais grâce aux humbles. Bien, donne-nous d'accepter tout abaissement, parce que un jour c'est toi qui nous élèveras dans les cieux. Que notre patrie céleste
nous devienne infiniment cher et que nous sachions vers qui nous nous en allons. Nous ne savons plus ce que nous devons choisir, si nous devons vivre, c'est qu'il en vaut la peine, mais si nous devons mourir, si nous devons partir, nous savons que c'est un gain, car cela, c'est de beaucoup le meilleur. Alors nous te donnons toute gloire, tout honneur, et nous te demandons que nous puissions porter l'Évangile en étant réellement caractérisés par ta propre vie, en tout temps. Cette vie dans laquelle le Père de toute éternité trouvait tout son plaisir. Que tu puisses, ô Père, trouver ton plaisir en chaque personne qui porte le nom de Jésus et qu'ainsi nous soyons en bénédiction à ceux qui, dans ce monde, s'en vont vers la perdition. Pour la gloire du Père, au nom du Fils et par la puissance du Saint-Esprit. Amen.